Louez le Seigneur. Ne sois comme l'herbe. C'est aussi bon de le savoir. Parce que c'est vraiment ainsi, nous sommes véritablement que de l'herbe. Et je me réjouis vraiment de ce que notre sœur a préparé ce matin. De résumer encore une fois tout cela. C'est si important, si bon, et ça nous aide de résumer. Louis le Seigneur. C'est très important de voir cela. D'un côté, que nous ne sommes rien, nous sommes vraiment rien. Même le Seigneur a dit, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous qui nous pensons que nous sommes tellement capables et que lui, il a besoin de nous. Mais d'un autre côté, c'est bon de voir aussi combien notre Dieu est grand. Si nous voyons seulement combien nous sommes inutiles, alors nous nous résignons. Mais si nous voyons l'autre côté, l'autre aspect, combien notre Dieu est grand, nous sommes forts, encouragés, prêts à travailler, à collaborer avec lui, et nous plaçons notre confiance en lui pour collaborer avec lui pour son œuvre merveilleuse, pour entrer dans ses œuvres. Et ces deux aspects sont vraiment très importants. Ah. Nous avons vu hier un tel précurseur. C'est tellement équilibré ce que la parole de Dieu nous montre. Nous pensons qu'il n'a pas besoin de nous. De l'autre côté, nous faisons tout. Mais le Seigneur a besoin d'un précurseur aujourd'hui pour son retour, en vue de son retour. Pas juste un, mais aujourd'hui, Sion. Il a besoin de Sion. Nous devons aujourd'hui être ses précurseurs pour qu'il puisse revenir. Et j'espère que nous avons tous ce fardeau dans notre cœur. Et nous devons mettre notre confiance en lui pour qu'il puisse nous conduire. Louis le Seigneur. Et je remercie le Seigneur aussi que depuis le chapitre 40, il y a une parole de consolation qui est si importante. Nous voyons de nouveau comment la parole de Dieu est équilibrée, qu'il y a tellement de jugements. Il nous expose le châtiment. Et nous en avons besoin, n'est-ce pas? Mais d'un autre côté, il y a aussi une solution. Il y a sa parole de consolation. Et sa consolation n'est pas juste une consolation qui est vide. Parfois, nous disons, oui, le Seigneur, que le Seigneur soit avec toi. Mais ça, c'est vide, c'est une parole vide. Oui. C'est juste une parole. Nous ne devons pas juste consoler quelqu'un avec des mots. La véritable consolation, c'est ce Dieu merveilleux, le Seigneur lui-même. Il est notre véritable, vraie consolation. Sans lui, il n'y a pas de consolation. Mais si nous voyons combien ce Dieu est merveilleux, alors tous nos soucis sont loin. Pourquoi devrions-nous nous faire encore du souci? Mais lui, c'est un grand Seigneur dans sa grandeur. C'est vraiment une vraie consolation pour nous. Le Seigneur doit vraiment encore plus ouvrir nos yeux pour que nous voyions combien notre Dieu est grand. Nous le connaissons encore bien trop peu. Bien trop peu.
Amen.
Il ne nous reste plus qu'un jour, c'est pour ça que nous devons avancer, aller un peu plus vite, aller un peu plus vite de l'avant. On arrive au chapitre 41. Cette consolation pour le peuple d'Israël autrefois continue. C'est le Seigneur, elle leur a déjà dit autrefois, que le jugement allait venir, que Babylone allait venir, qu'ils allaient être emmenés captif. Et bien que le Seigneur l'avait déjà dit, ils ne se sont malgré tout pas repentis. Ils ont continué dans leur voie. Bien sûr, il y a aussi un reste qui est fidèle. Ils ont vu, comme par exemple Ésaïe ou Jérémie, les prophètes autrefois, qui ont vécu au même temps. Et aussi une autre partie du peuple, ils ont vu. Mais que pouvait-il empêcher? Il ne pouvait pas empêcher que cela arrive. Mais le Seigneur, dans sa consolation, avait aussi dit à l'avance qu'il allait les sauver. Et comment il allait les ramener de cette captivité? Et ça, c'est merveilleux. Et ça, il y a seulement Dieu qui peut le faire. Et Dieu l'utilise aussi pour prouver qu'il est Dieu. Parce que personne ne pouvait autant à l'avance prédire ou dire, annoncer à quoi ressemblerait ce salut, comment ils allaient revenir de captivité de Babylone à Jérusalem, revenir dans leur pays, et comment ils allaient ensuite juger Babylone, détruire. Et comment il allait amener Benjamin, de leur captivité. C'est dur à croire autant à l'avance que ça allait arriver. Et nous voyons au chapitre 41 que d'un côté, au chapitre 40, il parle de la venue du Messie. C'est très important et c'est merveilleux. Et comment ça va se passer, comment ça arrive. Et d'un autre côté, il continue au chapitre 41, où le Seigneur avait dit qu'il allait réveiller quelqu'un. Verset 41, il n'a pas encore mentionné le nom de Cyrus. Mais ici, il pense à Cyrus. Même avant, 200 ans avant que Cyrus même soit né, Dieu avait déjà connu cette personne. Est-ce que tu t'imagines cela? Il te connaît, c'est déjà avant que tu naisses. Même avant la fondation du monde, comme Paul le dit. Il nous a déjà mentionné avant la fondation du monde. Comment cela se fait-il? Est-ce que ton père t'avait choisi avant la fondation du monde? André Emery? Bien sûr, le père céleste, oui, mais ton père terrestre, non. C'est tellement merveilleux. Nous sous-estimons souvent notre Dieu merveilleux. Et Paul utilise aussi, il dit dans Galates qu'il nous connaissait déjà quand nous étions dans le ventre de notre mère. Comment est-ce que Paul pouvait dire ça? Mais il le savait parce qu'il avait lu la parole. Il connaissait la parole. Nous devons encore plus connaître ce Dieu merveilleux. Nous pensons que nous le connaissons. Mais en fait, à notre honte, après tant d'années, je dois dire, je ne le connais encore pas assez bien. C'est pour ça que ce verset dans Philippiens 3 m'a toujours beaucoup touché. Parce qu'il dit, je veux le connaître. Quand j'étais bien plus jeune, je me disais, ouais, mais Paul le connaissait. Comment est-ce qu'il aurait fait pour écrire cet épître aux Philippiens? Si on peut écrire une telle épître aux Philippiens, c'est certain qu'il avait déjà connu le Seigneur. Mais la question, c'est de savoir combien tu le connais. Je peux dire que je connais ce frère ici. Bien sûr, je sais à quoi il ressemble. Je le connais juste pendant les temps de conférence, mais plus je connais pas plus que ça. Si je veux apprendre à plus le connaître, alors je dois passer plus de temps avec lui. Je dois même déménager là où tu habites, alors là je peux vraiment mieux apprendre à te connaître. David, je le connais aussi, mais très peu. Si nous disons que nous connaissons le Seigneur, alors combien nous le connaissons? Paul parlait des richesses insondables. Combien de ces richesses nous connaissons? Bien trop peu. Bien trop peu. Est-ce que tu connais l'Allemagne? Bah, tu es allemand, non? Tu es né ici, à Pforzheim, quelque part. Alors tu dois bien connaître l'Allemagne. Est-ce que tu as déjà visité chaque coin de l'Allemagne? Combien est-ce que de l'Allemagne, de ce pays, est-ce que tu as vu? Combien? Une partie, quoi? Un tiers? Un huitième? Un centième? Nous pensons que nous connaissons. Mais nous avons même pas reconnu que nous connaissons trop peu. Bien trop peu. Et le Seigneur est tellement grand. Notre Dieu est si puissant, si grand. C'est vraiment une folie de dire que nous le connaissons et que nous pensons que ça suffit. On se trompe. Et nous ne reconnaissons pas même que nous-mêmes nous avons tellement de problèmes que nous ne pouvons pas résoudre. Nous n'avons aucune solution et nous ne tournons pas vers lui. Et là, nous disons que nous le connaissons. Comme Paul l'a mentionné dans Philippiens 3, la puissance de sa résurrection. Explique-moi, dis-moi, combien souvent tu expérimentes la puissance de sa résurrection. Nous connaissons tous ce verset. Nous sommes d'être rendus semblables à sa mort. Raconte-moi, je te donne 3 jours pour écrire tout dans chaque fois combien souvent tu as expérimenté sa vie de résurrection, à quoi ça ressemble quand tu expérimentes cela. Alors nous allons être exposés de voir combien peu nous connaissons cette puissance de résurrection, combien peu nous l'avons expérimentée. Bien avoir la communion avec ses souffrances, pas tes souffrances. Nos souffrances, nous les avons cherchées, mais pas ses souffrances. Et même la communion avec ses souffrances. Si nous souffrons un peu, déjà, nous sommes finis, nous murmurons. Ça, ce n'est pas la communion de ses souffrances. Pas ses souffrances, on parle là de ses souffrances. Et Paul a dit, il se réjouit de ses souffrances pour nous et pour les souffrances de Christ. Parce que une fois que le Seigneur est ressuscité, qui souffre pour l'Église? Le Seigneur n'est plus ici pour dans sa chair souffrir pour l'Église. Maintenant, c'est toi qui dois avoir cette souffrance, pas pour le salut à la croix. Pour cette souffrance-là, nous n'en avons pas partie, mais pour l'Église. Nous disons que nous aimons l'Église, mais à la fin, nous critiquons et même nous abandonnons. Toi, l'Église, c'est quoi ça? Quelle souffrance est-ce que nous avons vraiment portée pour les saints, pour les frères et sœurs? Sa souffrance est merveilleuse. Et Paul voulait expérimenter cette souffrance de Christ. Nous voulons expérimenter notre vie, mais pas sa vie, mais pas ses souffrances. Nous voulons expérimenter sa force, mais pas ses souffrances. Mais être rendu conforme à lui dans sa mort, ça, j'en ai aucune envie. Peut-être que je l'ai, mais quand je suis confronté à cela, alors je m'enfuis. Souvent, nous sommes d'accord avec la parole, mais quand l'expérience arrive, souvent, je m'enfuis. Combien peu dans notre expérience nous connaissons ce Christ? Bien trop peu. Qu'est-ce que nous pouvons dire à ce sujet? Et bien sûr, combien il est puissant, combien il est grand. Si nous voyons cela, alors notre foi va aussi correspondre, être, lui correspondre, être forte, affermie. C'est pas étonnant que nous soyons un peu croyants, incrédules, un peu incrédules. Souvent je dis, je suis un croyant incrédule. Je dois toujours dire, Seigneur, je crois, mais viens en aide à mon incrédulité. Je ne sais pas si j'ai plus de foi ou trop d'incrédulité. Mais plus nous le connaissons, plus nous le voyons, plus nous voyons combien il est grand, alors notre foi grandit aussi. Louez le Seigneur. Et on peut continuer à... Dans le chapitre 41 d'Ésaïe, il fait silence pour m'écouter. Les îles ici, c'est pas les îles, c'est pas Majorque. Hein. C'est tous ces nations, ces pays qui sont entourés de mer, que les peuples raniment leur force. Ranimez votre force. Qu'on puisse argumenter, fortifiez-vous, et venez. Tu as dit, doivent devenir des princes, mais Dieu n'a pas peur de les inviter. Même à une conférence avec Job, il a même invité Satan. Parce que là, ils aiment parler et Dieu les laisse parler. Nous voulons nous rassembler pour nous juger. Viens, viens seulement. C'est donc le parle de l'Est. Qui a suscité l'Orient, c'est l'Est, celui que le salut appelle à sa suite. Et ici, il a dit, un homme, il a réveillé un homme suscité. Qui est celui-ci? Qui est celui-ci que le salut appelle à sa suite? C'est Cyrus. Qui lui a livré les nations et à ses jetidis rois la justice qu'il rencontre. Ah, j'ai pas entendu. C'est pas la justice selon la mesure de Dieu, comme nous avons Christ en tant que notre justice, comme nous connaissons Christ en tant que notre justice, nous en réjouissons, nous l'expérimentons, mais rendu juste selon la mesure humaine. Cet homme, Cyrus, Dieu l'a considéré comme un homme juste. Il a fait ce qui était juste, ce qui était vrai. Plus tard, nous allons un peu parler de lui. Qui lui a livré les nations et assujetti des rois.
Ja, er weckt Gott, wir uns diese Zeit
Dieu a réveillé en ce temps-là. Cela, bon, ça dépend comment est-ce qu'on compte le temps. Si on compte depuis la naissance ou depuis le moment où Esaïe a prophétisé, jusqu'au temps où Cyrus est venu pour détruire Babylone, ou si c'est jusqu'à la naissance de Cyrus, on ne sait pas. C'est en tout cas entre 150 ans et 200 ans avant que Cyrus soit là, Dieu a parlé de lui. Et Dieu a dit, a parlé de lui, et plus tard, il a mentionné directement son nom. Qui a réduit leur glaive en poussière. Ouais, toutes les nations qui se sont élevées. Il les ramène à la poussière. Leur arc est un chaume qui s'envole. Il a élevé toutes ces nations. Cet homme va pouvoir les mettre en poursuite. Il s'est mis à leur poursuite. Il a parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Ça veut dire qu'il n'a jamais été là, mais il est allé là et il les a tous vaincus. Dieu avait déjà prophétisé cela à l'avance au sujet de cet homme. Nous avons un tel Dieu. Ils avaient conquis, en fait. On dit, pourquoi cette difficulté, ceci, cela. Dieu sait tout avant que cela arrive. Et selon sa sagesse, il a déjà tout préparé. Je dois juste apprendre à prendre, à accepter. Amen, Seigneur. Si je connais ce Dieu merveilleux qui connaît déjà tout, le problème, qui connaît le problème et qui a aussi la solution. Est-ce que tu ne penses pas que Dieu savait que Adam allait tomber? Est-ce que Dieu ne savait pas cela, John, que Adam allait tomber? Bien sûr. Alors qu'allait-il faire? Qu'est-ce que Dieu fait? Tu penses que il allait couper la tête de ce serpent? Ce serait une solution élégante. Non, ce n'est pas une solution très élégante, parce que Dieu avait prévu encore d'utiliser ce serpent. Et nous avons beaucoup à penser au sujet de ce serpent, afin que nous allions jusqu'au but. Il nous a préparé tellement de difficultés, c'est tellement bon pour nous. Toutes choses sont bonnes, mais c'est difficile d'accepter une telle parole. On s'énerve toujours contre lui, on dit « Seigneur, fais-le fuir ». Mais sais-tu, Dieu, avant la fondation du monde, il avait préparé l'agneau. Tout ce qui allait arriver, il savait déjà qu'il avait préparé déjà cet agneau sans tache, sans défaut. À quelle solution aurais-tu pensé? Est-ce que c'était de couper la tête du serpent ou alors l'agneau? Notre choix, selon notre vision, pour notre confort, afin que nous puissions vivre sans problème, on choisirait la première solution. Mais Dieu le voit autrement. Quelle solution est la meilleure? Loué Seigneur, nous devons dire, Dieu, nous te remercions pour ta sagesse. Sa sagesse, sa connaissance, sans limite, n'a Il est tellement sage. Je pense que des fois mon choix est juste, alors que c'est la plus bête des décisions. Alors je dois vraiment cacher mon visage. Dire Seigneur, en fait ce n'est pas juste, ce n'est pas bon. Il y a tellement de choses, quand je regarde en arrière dans ma vie, je dois vraiment remercier le Seigneur et le louer pour sa sagesse. Mais si je regarde en arrière, autrefois je pensais, oh, pourquoi, comment cela se fait, ça devrait être autrement. Mais aujourd'hui, si je regarde en arrière, je dois donner la gloire à Dieu et le remercier. Seigneur, je te remercie pour tout ce qui est arrivé. J'étais tellement fou. Je ne savais pas ce qu'était son plan, ce qu'il avait prévu avec moi. Je ne savais pas. Je me suis plaint. Je vais murmurer. Je me suis battu là contre et maintenant je le remercie. Sinon, je pense, pourquoi est-ce que Dieu a permis cela? Louez le Seigneur, mais aujourd'hui, nous apprenons toujours plus. Rien n'arrive dans notre vie sans que Dieu ne l'ait déjà su à l'avance. Il a aussi déjà la bonne solution pour toi, pour que tu puisses gagner le maximum de cette situation. Nous devons avoir une telle confiance dans ce Dieu merveilleux et grand. Il n'avait pas le choix de les emmener captifs à Babylone et d'aller les rechercher, mais il avait déjà préparé une merveilleuse solution afin que le temps vienne. Exactement comme Jérémie l'avait prophétisé 70 années après la captivité, ils reviennent. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. C'est arrivé exactement, ça s'est passé ainsi avec les années. Exactement 70 ans après, le peuple a été délivré de cette captivité. Le Seigneur est un bon mathématicien. Il calcule exactement. Et notre Dieu est si merveilleux. Et c'est pour ça que nous ne devons pas nous plaindre et plus dire « Oh, ils nous ont fait ceci, cela. » Louez le Seigneur, que ceci et cela soient arrivés. Alléluia, je dois remercier chaque jour le Seigneur et de dire, Seigneur, tu dois me montrer ce que tu veux faire avec nous, comment tu veux aller nous mener de l'avant. Devant Ésaïe 43, il s'est mis, oublie ce qui est passé. Vous avez dit tellement de bons souvenirs, de choses fausses. Apprends à oublier ces choses. Si c'était bon, si c'était mauvais, peu importe. Oublions cela. Regardons au Seigneur. Seigneur, je veux aller de l'avant. Ce qui est ancien, ça va nous retenir. Paul dit aussi dans Philippiens, j'oublie ce qui est en arrière. J'oublie tout ce qui est en arrière. Ah, Steve, loue le Seigneur. J'ai essayé de te contacter sur Skype hier, mais j'ai pas pu. Maintenant, je te vois ici. Loue le Seigneur.
Amen.
Toutes choses servent à mon bien. C'est un Dieu merveilleux. Et ici, Dieu, pour conquérir toutes les nations, il a utilisé cet homme. C'est merveilleux. Et à verset 4, qui a fait exécuter ces choses? Qui pouvait faire cela? Qui parmi nous pouvait faire cela?
Il n'y a
nous n'avons aucune puissance. Nous sommes inutiles. Nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien changer. Nous ne savons pas non plus ce qui arrive dans le futur. Qui a fait et exécuté ces choses? Évidemment, seulement notre Dieu merveilleux. Je ne peux rien faire. Je peux pas me dire ce qui va arriver demain. Même pas ça. Mais lui, c'est celui. Ça, nous devons apprendre à le dire. Seulement lui. Même il a dit, toutes ces nations, tous ces peuples, il les a appelés depuis le début. Il avait créé toute la terre, il a créé l'humanité. Lui, c'est lui. Et si lui, il a tout créé, et qu'il a pu faire cela, c'est une petite chose. S'il connaissait de connaître Cyrus par rapport à toutes ces choses, c'est bien une petite chose pour lui. C'est pour ça que nous devons vraiment nous réjouir de cette parole. Il nous connaissait déjà avant la fondation du monde. Il a dit, moi, le Seigneur, moi, l'Éternel, le premier, et le même jusqu'au dernier âge. Il est le premier, il est aussi le dernier. C'est-à-dire qu'il est éternel. Sans lui, il n'y a pas de début, de pas de commencement. Et tout à la fin, il n'y a plus que lui qui demeure. Et depuis le début jusqu'à la fin, il confirme tout, personne d'autre. Est-ce que tu le connais comme le premier et le dernier? Est-ce que notre Seigneur n'est pas le commencement et la fin de notre foi? C'est lui qui détermine tout. Ce n'est pas bon. Si nous sommes la fin, alors la fin, elle ressemble à toute autre chose. Souvent, j'ai vu déjà plusieurs fois dans ces dernières années, 50 années, où j'ai vu le Seigneur qui a commencé et c'était beau, c'était merveilleux, mais ensuite nous pensons que nous devons terminer. Et alors tout est cassé, est en mauvais état. Laissez-le aussi terminer. Si lui le commencement et nous la fin, alors la fin ressemble est vraiment chaotique. Il est le premier, le commencement. Il est l'alpha. Il est aussi le dernier. Il est Dieu. Louis le Seigneur. Et ça, c'est vraiment une explication merveilleuse de Dieu sur lui-même, à son sujet. J'ai quelques versets ici. Vous pouvez lire le chapitre 44, verset 6. Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Verset 48, chapitre 48, 12, 13. Il dit aussi, moi je suis le premier, moi je suis le dernier. Trois fois dans Ésaïe, il a mis l'accent là-dessus. Il étouffe. S'il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, ça veut dire que là, entre, c'est aussi lui, toutes les lettres de l'alphabet, A, B, C, D, jusqu'à X. jusqu'à Z. X, Y, Z, c'est tout, c'est lui. C'est bon si nous apprenons cela dans la vie de l'Église, aujourd'hui à Sion. Si aujourd'hui nous voulons bâtir Sion de A à Z, ça doit être le Seigneur. Ce n'est pas bon si tu veux le remplacer. Ce n'est pas bon. Chaque fois, quand nous voulons dire, ah non, maintenant c'est mon œuvre. Je fais ceci, je fais cela. Alors tu détruis son œuvre. Alors Dieu va dire, ok. Alors tu es responsable, toi, plus moi. Et je dois revenir justement à ce verset dans Hébreux 8. Ce tabernacle n'est pas bâti par les hommes et pas de cette ancienne création, cette vieille création. Chaque fois, quand nous voulons mettre notre nez là-dedans, qu'on veut toucher ça avec nos propres mains, notre nez est plein de bactéries. Si tu mets ton nez là-dedans, alors Dieu dit c'est terminé. C'est ton œuvre alors. Ton nez, ton œuvre. Tabernacle qui est adressé par le Seigneur et non par un homme. Chers frères et sœurs, apprenons cela jusqu'à ce qu'il revienne. Apprenons, il est le premier maintenant et il doit aussi accomplir son œuvre jusqu'à la fin. Nous suivons seulement l'agneau partout où il va. Cela ne signifie pas que nous ne faisons rien, mais dans tout ce que nous faisons, nous prenons le conseil du Seigneur. Nous faisons tout selon son esprit. Nous faisons tout ce qu'il dit et laissons-le faire cette œuvre en nous. Laissons-le lui faire cette œuvre. Alors, nous pouvons parvenir à la fin. Et ensuite, la suite, les versets 5 du chapitre 41, les îles le voient et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent, elles vont trembler, ils s'approchent, ils viennent. Ils cèdent l'un l'autre et chacun dit à son frère, courage. Le sculpteur encourage le fondeur, etc. Celui qui polie au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, elle est bonne. Il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Ils font vraiment pleinement confiance à leur idole parce qu'ils n'ont pas d'autre chemin. Mais nous faisons confiance à ce Dieu merveilleux vivant. Amen. Verset 8, « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. » C'est des paroles merveilleuses. « Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point. » Israël, la nation Israël est son serviteur. Nous sommes, en tant que Sion, son serviteur. Je te choisis, je ne te rejette point. C'est une telle consolation ici. Et cette consolation, nous en avons besoin. Peut-être que les hommes vous ont repoussé, mais Dieu va nous dire, non, je t'ai choisi et je ne t'ai point rejeté. Verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Pourquoi ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Louez le Seigneur. Nous n'avons pas besoin de craindre. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Quelle consolation! Et la consolation de Dieu n'est pas vide, il va le faire. Il est notre Dieu. Et c'est pas un petit Dieu. Voici, verset 11, ils seront confondus et seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Est-ce que tu crois cela? Louis le Seigneur, nous le croyons. Attends seulement. Je sais pas quand le Seigneur va accomplir cela, mais il va le faire. Chaque chose en son temps. Le Seigneur ne se dépêche pas. Il n'est pas si pressé. Nous sommes toujours pressés. Je veux voir ça directement se passer. Quand je demande au Seigneur, fais cela. Je suis comme un enfant, j'aimerais l'avoir tout de suite. Nous sommes tous ainsi. Mais le Seigneur dit, attends, on a le temps. Le Seigneur va déjà le faire, c'est juste une question de temps. Nous disons toujours, tôt ou tard. Nous voulons toujours tôt que tard, plus tôt que tard. Je suis toujours pressé. Je veux toujours voir tout directement, tout expérimenter directement. Obtenir cela tout de suite, ce n'est pas bon. Remets ça, confie-le au Seigneur. Et maintenant, il dit qu'il va nous fortifier. Ne crains rien. Il va nous aider à aller de l'avant. Et le reste, remets-le au Seigneur. Et il va nous soutenir par sa droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ils disparaissent. Et si Dieu le dit ainsi, alors tu dois aujourd'hui, à tes yeux, voir que comme Dieu l'a dit, alors je ne les vois plus. Dieu l'a dit, tu dois faire comme si tu, bien qu'ils sont là, faire comme si tu les vois pas. Tôt ou tard, quand ils disparaissent, ils vont disparaître, mais aujourd'hui, devant tes yeux, parce que Dieu l'a dit, ils ont déjà disparu. Tu ne les vois plus. Bien qu'ils sont encore là. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Est-ce que c'est pas merveilleux? Ça sonne comme de la musique à nos oreilles. Quel Dieu merveilleux, quelle consolation, quelle parole de consolation pour nous aujourd'hui. Est-ce que tu as encore des problèmes? Qui a encore des problèmes ce matin? Wilfried, est-ce que tu as encore des problèmes? Non. Tout est si merveilleux. Et effectivement, aux yeux de Dieu, tout cela n'existe plus. Si Dieu le fait aujourd'hui, ou demain, ou la semaine prochaine, ou l'année prochaine, ça m'est égal. Pour moi, ce qu'il a dit est déjà terminé. C'est déjà accompli. Amen. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, verset 13, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien. Je viens à ton secours. quelle parole de consolation. On peut encore lire plus loin. Chapitre 48, au sujet de Cyrus. On verra ça plus en détail après. Donc, chapitre 48, je crois verset 14. Je crois, il y a tellement de passages dans Isaïe au sujet de Cyrus, c'est vraiment étonnant. Parce que c'est un point important que Dieu nous a donné comme consolation, comme promesse à Israël qu'il allait les ramener de la captivité à Jérusalem. Chapitre 48, Ésaïe 48, verset 14. On peut le lire. Est-ce que c'est juste 48 ou est-ce que j'ai mal lu? C'est ça. 48, verset 14. C'est au sujet de Cyrus. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone, et son bras s'appesantira sur les Chaldéens. Moi, j'ai parlé et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Là, il a de nouveau mentionné Cyrus et il a dit celui que le Seigneur aime. C'est vrai, est-ce que ce n'est pas un homme particulier? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone. Et son bras s'appesantira sur les Chaldéens. Moi, j'ai parlé et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Personne ne pouvait arrêter Cyrus à ce temps. En ce temps-là, personne. Parce que Dieu l'avait annoncé avant. Il l'avait préparé. Cyrus ne doit pas penser qu'il était si puissant. Non. Dieu avait déjà tout préparé. Il l'avait destiné. Et comme nous voyons après, tout arrive exactement comme ça. Et ensuite, on avance un peu plus vite. On continue dans le chapitre 41. Au verset 21. Le Seigneur défie les nations. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Il déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous reconnaissions l'accomplissement. Ou bien annoncez-nous l'avenir. Dieu les a vraiment défiés. Qu'est-ce qui va arriver demain? Annoncez-le nous. C'est difficile à dire. Personne ne le sait. Dites-nous ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Si vous êtes Dieu, alors dites ce qui va arriver demain. Parce qu'il va arriver bientôt. Personne ne veut savoir cela. Ici, nous voyons, Dieu les a toutes défiées parce que seul Dieu est l'alpha et l'oméga. Seul lui est le commencement et la fin. Il savait quel était le début. Personne d'autre. Il sait ce qui arrive demain. Nous pas. C'est pour cela que ça nous fait du bien de faire confiance. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Et que nous puissions le contempler ensemble. Voyez, vous n'êtes rien du tout. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyions, le regardions ensemble. Vous n'êtes rien. Et votre œuvre est le néant. C'est une abomination que de s'appuyer sur vous. Je l'ai suscité du septentrion et il est venu de l'Orient. Il invoque mon nom. Le Cyrus était un Perse. Mais il était aussi un Mède. Il était du nord et de l'est. Du nord et de l'est. Dieu, c'est tout. Il est le seul docteur qui connaît tout. Les autres ne sont pas des vrais docteurs qui savent tout, qui connaissent tout. De l'Orient, il invoque mon nom, il foule les puissants comme de la boue. Rien ne peut lui résister, comme de l'argile que foule un potier. Dieu avait déjà annoncé cela à l'avance. Est-ce que tu ne peux pas faire confiance à un tel Dieu? Si tu ne le connais pas, alors nous plaignons, nous murmurons et nous voyons, nous sommes tellement frustrés, nous pensons que cela ne nous sert à rien. Pourquoi? Nous demandons toujours pourquoi. Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Pourquoi est-ce que je suis assis aujourd'hui? Pourquoi c'est cela aujourd'hui? Pourquoi et pourquoi? Nous aimons bien poser cette question, comme les enfants. Pourquoi? Mon petit-fils me demande toujours pourquoi. Je lui réponds toujours parce que. Parce que j'ai pas de réponse. Dieu a une réponse, mais moi pas. Pourquoi? Ben parce que. Seigneur, nous te louons. C'est merveilleux. Le Seigneur connaissait déjà tout cela à l'avance. Si nous reconnaissons cela, pourquoi est-ce que je me ferais encore du souci? Cela ne veut pas dire que ça m'est égal, mais je veux apprendre à ne plus me faire de soucis, parce que je sais que Dieu connaissait tout cela à l'avance. Il avait déjà tout à organiser et il a une solution, peut-être que je ne la connais pas encore maintenant, que je connais peut-être pas encore. Mais je ne veux plus tellement demander pourquoi, comment, c'est ceci et cela, j'ai toujours tellement de questions. Mais si, maintenant, je connais ce Dieu merveilleux, alors je n'ai plus besoin d'analyser pourquoi, comment ça se fait. Mais je peux placer ma confiance en lui parce que je sais que mon Dieu sait. Et il a déjà tout arrangé avant que tout arrive. Ouais, Seigneur Jésus, nous te louons. Qui c'est qui a annoncé cela dès le début? Qui l'a annoncé dès le commencement, verset 26, pour que nous le sachions, et longtemps d'avance pour que nous disions, c'est vrai? Nul ne l'a annoncé. Nul ne l'a prédit. Personne n'a entendu vos paroles. Nul. Personne d'autre. Est-ce que cela a à voir avec nous? Nous devons connaître un tel Dieu. Comment sinon tu veux l'expérimenter? quelle est la réaction dans notre vie quotidienne si nous connaissons un tel Dieu? Alors je n'ai plus besoin d'analyser tellement, de connaître tellement de choses, de me faire du souci, de chercher des explications. Mais non, je place ma confiance en lui. Je me confie en lui, parce que lui, il sait. Si lui, il sait, alors je suis dans la tranquillité, dans le repos. Si je sais qu'il a déjà tout prédestiné, qu'il a déjà trouvé une solution, même si aujourd'hui je ne la connais pas, mais j'ai la paix. Si je ne connais pas un tel Dieu merveilleux, alors je me fais du souci. C'est moi le premier qui ai dit à Sion, les voici, verset 27. Et à Jérusalem, j'envoie un messager de bonne nouvelle. Je regarde et il n'y a personne. Personne parmi eux qui prophétise et qui puisse répondre si je l'interroge. Voici, ils ne sont tous que vanité. Leurs œuvres ne sont que néant. Leurs idoles ne sont qu'un vain souffle. Dit que c'est évidemment les idoles des nations qui sont vaines, mais aussi nos soucis, nos plaintes, nos désirs, tout ce qu'on exige, nos difficultés sont autant néants que leurs idoles. C'est autant un vain souffle que les idoles des nations. C'est moi le premier qui ai dit à Sion, les voici, les voici. Cet esprit merveilleux que le Seigneur nous a donné, comme on voit dans Jean 14, 15 et 16, cet esprit a cette fonction et il va aussi nous montrer ce qui est à venir. Est-ce que c'est pas merveilleux? Le Seigneur va déjà nous montrer. Mais seulement ce qui est nécessaire. Pas juste, Seigneur, la semaine prochaine. Est-ce que je vais gagner plus la semaine prochaine dans mon entreprise si tu poses des questions comme ça au Seigneur? Tu ne reçois pas une révélation. Mais ce qui est en relation avec son œuvre, ça, nous voulons le connaître volontiers, Seigneur, à quoi ça ressemble maintenant? Comment vas-tu aller jusqu'à la fin? Montre-moi le chemin, je ne veux pas être emmené, sortir de ce chemin, pas aller partir à gauche, à droite, mais montre-moi à quoi ressemble ce chemin aujourd'hui. Et même à quoi ressemble ce chemin demain, peut-être pas même après-demain, mais déjà demain, afin que je connaisse le pas suivant, comment je peux aller de l'avant. Ça, je vais volontiers le connaître. Pas si la semaine prochaine on aura du beau temps pendant ma semaine de vacances. Ça, c'est complètement égal pour Dieu. Il ne va pas juste te donner du beau temps juste pour que tu puisses avoir des vacances agréables. Il n'est pas... c'est pas l'homme de la météo. C'est pas celui qui annonce la météo aux nouvelles. Ce météorologue ou... enfin... ceux qui donnent à l'avance la météorologue. Ils n'ont pas toujours raison en plus de ça. Mais ce qui est en relation avec son œuvre, ça tu peux le lui demander, demande-le lui. Si tu ne lui demandes pas, et même si tu analyses, tu cherches, à un moment, il va terminer son œuvre. tu vas terminer quelque part, mais pas selon le but que Dieu a choisi. À la fin, tu vas préférer d'autres choses que ce qu'il y a sur le cœur de Dieu. Tu vas être détourné. Et c'est pour ça que Ésaïe nous dit que tout ce que tu fais, ce que veut faire, cherche son conseil. Suis le Saint-Esprit. Il nous a donné cette onction qui nous apprend toutes choses, nous enseigne toutes choses, qui nous montre le bon chemin. Et nous ne devons pas être rebelles comme le peuple d'Israël. Est-ce que Étienne n'a pas dit, vous avez dû résister à l'Esprit de Dieu? À Thessaloniciens 5, et Paul dit, il dit, ne trompez pas l'Esprit aussi dans Éphésiens. Nous sommes vraiment scellés par le Saint-Esprit. Il dit, n'éteignez pas l'Esprit dans Thessaloniciens. Mais malgré tout, nous sommes rebelles. Dans Ésaïe, il dit qu'on est rebelles contre le Saint-Esprit. Nous le sommes toujours à nouveau. Ne pense pas que nous ne sommes pas ainsi. Seigneur Jésus. Et en relation particulièrement avec son chemin pour aller de l'avant, demande-lui. C'est le mieux, c'est que ce soit le Seigneur qui nous dise, mais nous ne lui demandons pas. Nous préférons rester dans nos traditions. Nous nous sentons confortables. Ça nous convient bien que depuis 50 ans, depuis 30 ans, depuis 10 ans, que ce soit comme ça. Je me sens ici à la maison, dans la tradition. Non, va de l'avant avec le Seigneur. Même si ce n'est pas habituel, que c'est quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, c'est toujours inhabituel. Des vieilles chaussures sont toujours plus confortables. Quand tu achètes des nouvelles chaussures, tu as besoin d'un peu de temps pour qu'elles se fassent à ton pied, pour qu'elles soient plus confortables. Mais louez le Seigneur. Nous voulons vraiment atteindre le but. Et ça ne va plus durer si longtemps. Hier, John a parlé qu'il souhaitait 7 ans. Ne nous ont pas dire combien de temps, mais c'est possible. C'est pour ça que j'ai rajouté un peut-être. Parce que personne ne peut dire exactement combien de temps il nous reste. Mais c'est bien possible. Quand le Seigneur a préparé Cyrus autrefois pour que sa parole s'accomplisse, qu'il accomplisse son plan, qu'après 70 ans, il puisse ramener son peuple à Jérusalem pour qu'il rebâtisse le temple, penses-tu que le Seigneur, aujourd'hui, dans notre temps, ne va pas préparer quelqu'un pour accomplir le verset de Daniel 9, verset 27. Cyrus était le début, le commencement. Pour que le peuple d'Israël revienne de sa captivité. Mais en fait, bien que c'était 70, on commence avec Jérémie, mais sans, il n'y avait pas Cyrus, le peuple d'Israël. Pour que le peuple d'Israël revienne à Jérusalem, ça aurait été impossible. Alors en fait, ça commence avec Cyrus, pour ainsi dire. Bien que ça commence avec Jérémie, mais la fin des 70 ans, termine avec l'alliance, Quand Dieu a déjà prédestiné quelqu'un de cette manière depuis le commencement, penses-tu que Dieu a oublié de prédestiner, de choisir, de préparer quelqu'un pour la fin? Souviens-toi, il est le premier et il est aussi le dernier. On termine la réunion ici.